Me voilà reparti pour une nuit d'insomnie. Au fil des ans, j'ai pris l'habitude de me relever. Au début, je ne le faisais pas. Je restais au lit, me rejetais d'un côté puis de l'autre en écoutant sonner l'horloge. Souvent, j'écoutais les trains aussi. Ce que je fais, c'est me lever et descendre l'escalier pieds nus, dans le noir. Anatole, le berger croisé, m'entend arriver et sait quelle heure il est. Quand j'entre dans la cuisine et y allume la lumière, l'animal est en train de s'étirer les pattes. J'attrape la farine, les œufs, le batteur électrique, le grand et le petit bol, et commence sans hésiter. Je n'ai jamais besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Je le sais, c'est tout. Des petits sablés, un cake aux pommes, une quiche lorraine. Je peux être reconnaissante à mon mari d'avoir à l'époque installé le four à hauteur de visage, de mon visage. Comme il avait aussi, par galanterie, adapté le plan de travail à ma taille, et non à la sienne qui était, comme les circonstances me l'ont appris, d'1m84. Au bout de quelques temps, une fois que j'ai glissé le moule à gâteau sur la plaque dans le four préchauffé, je règle la minuterie. C'est indispensable. Car dans le salon plongé dans l'obscurité où je me rends ensuite en compagnie d'Anatole, je perds toute notion de la température, de l'odeur et du temps de cuisson idéal pour une croûte bien dorée. J'entends le bruit sourd du chien qui s'affale dans un coin et me mets à marcher.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
L'insomnie jette à bas nos défenses, ouvre les vannes à nos angoisses, remplit notre cœur d'amertume et nos âmes de papillons noirs. Toutes les peurs que nous domptons en plein jour prennent alors leur revanche. Et lorsque lire ne suffit pas, il faut, dans ce gouffre nocturne, ouvrir un espace à la vie charnelle, la vie matérielle. Et quoi de plus ancré dans la vie que faire la cuisine ? Pétrir, mélanger, peser, organiser, assembler, rééquilibre le corps et libère l'esprit. Pendant que les mains s'activent, les pensées s'ordonnent, leur flot tumultueux s'apaise. Aucun parfum d'Orient ne vaut celui d'un gâteau à la cannelle cuisant dans le four. Aucune pensée morbide ne résiste à la croûte dorée d'une quiche lorraine. Au premier regard, le dernier roman de la néerlandaise Marguerite de Mour, paru chez Grasset dans une traduction de Françoise Antoine, se déroule durant une nuit d'insomnie dans les pensées d'une femme occupée à cuisiner, tandis qu'un homme, rencontré le matin même, dort au premier étage, dans son lit. Il y a plus de 10 ans que son mari s'est suicidé sans la moindre explication. Pendant des années, elle a cherché à comprendre, à tenter de connaître ce jeune époux avec lequel elle pensait avoir été si heureuse. Des années à offrir à tous un front lisse alors que le tumulte l'habitait. Et tandis que le parfum des gâteaux envahit la maison, quelque chose a changé, enfin. Ce petit livre précieux, subtil, sans le moindre pathos et débordant de vie, nous apaise et nous réconforte. Bonsoir Marguerite de Mour.
Bonsoir.
Et bonsoir à Marianne de Sisbiel qui va nous permettre d'entendre votre beau néerlandais quand vous en aurez besoin. Ce livre, Marguerite de Mour, se déroule comme une grande phrase musicale. Il y a des reprises, il y a des interruptions. On pense au Lamento d'Ariana. Mmh. On sait que vous avez été chanteuse, que ça a été votre première passion dans la vie. Est-ce que vous avez voulu bâtir ce livre justement comme une de ces mélopées tranquilles, douloureuses, mais allant vers la lumière que vous avez dû interpréter autrefois ?
Oui, cette sorte de choses vont chez moi tout à fait naturel. Et surtout, je pense, les deux arts, la littérature et la musique sont très très liés et viennent de la même source, c'est-à-dire la voix. Toute la musique, sauf la percussion, vient de la voix qui chante et la littérature vient de la voix qui raconte. Alors, c'est très très proche, ça veut dire il s'agit de la respiration et au fond, il s'agit de la vie. D'abord, je suis musicienne, je n'ai jamais planifié cette carrière d'écrivaine. Et j'écris mes textes, mes romans, mes récits dans la manière dans laquelle je connais la musique. Et pour parler de ce petit roman, au premier regard, surtout maintenant de nouveau, je sens le mouvement Dans la musique, on dit naturellement toujours presto, allegro, andante, grave. Et ce roman vraiment a le tempo andante. Et ça vient de andare, et ça c'est se promener. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est aussi pour ça, moi, quand je lis le texte, quand je ne lis naturellement pas à haute voix, mais je connais le texte par cœur, je vois un mouvement d'andante. Elle marche dans la cuisine à une manière dans laquelle on peut réfléchir et rêver. Oui.
J'ai beaucoup aimé ce livre au premier regard. C'est un livre que j'ai lu deux fois, justement, parce que la première fois, on est happé par l'histoire, et la deuxième fois, on prend son temps, comme quand on réécoute une musique qu'on a aimée pour en déceler, justement, la phrase intérieure, intime. Et tout de suite, ça m'a fait penser aussi à quelque chose qui est très précieux pour moi, c'est la peinture hollandaise. Oui. Votre livre se passe à l'intérieur d'une cuisine, à l'intérieur d'une maison, dans la nuit. Et au fond, vous nous laissez avec une part de mystère, puisque les questions qu'on se pose n'ont pas de réponse. Un peu comme dans ces peintures hollandaises où on voit des intérieurs apparemment très calmes, mais qui sont vides. Et on se dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé là.
Oui, ça me plaît beaucoup que vous parlez de la peinture. Parce que, en effet, je pense, nous, les Hollandais, nous sommes un peuple concret. Aussi, notre langue est concrète et souvent, on voit dont on parle. Alors, c'est naturellement un pays de la peinture. Hein. Et moi, je n'ai pas seulement cette pensée de la musique, mais mon mari, mon défunt mari, était peintre et sculpteur. Alors, je sais très, très bien le regard avec lequel il regarde, il montre la réalité. Et je pense, mon écriture, qui ne se sert pas du tout de la psychologie ou la philosophie ou les grandes idées profondes, abstraites, j'aime écrire très concret, montrer simplement les choses et se laisser passer. Et à cette manière aussi, tout ce qui se passe dans mes récits et mes romans sont assez indépendants de moi. Moi, je regarde seulement et je les décris. Mais à une certaine manière, c'est peut-être un peu bizarre, mes personnages sont assez indépendants de moi et je ne les comprends même pas toujours.
Ça, c'est étrange parce que cette femme, on peut se dire que vous aviez peut-être envie, Marguerite de Mour, justement, de vous intéresser à sa psychologie, à sa manière de supporter ce deuil terrible qui l'a frappée alors qu'elle ne vivait que depuis un an et demi avec son mari, que l'amour était là, évident, simple. Oui. Le mystère de cette femme. Donc, vous nous expliquez que vous l'avez regardée devant vous. Oui. Vous n'êtes pas rentrée dans le mystère. Vous n'avez vous-même pas les réponses que le lecteur se pose à cette histoire.
Ah oui, mais c'est très très important. Hein. Moi, je trouve au fond que le lecteur est indépendant aussi de l'écrivain. Et moi, je regarde mes personnages, je me concentre aussi, par exemple, cette nuit de deuil hein, de cette femme qui descend de la chambre pour qu'est-ce qu'elle doit faire pendant une nuit dans laquelle elle ne dort pas. Ok, elle fait la cuisine, mais je ne suis pas aussi bête que je ne comprends pas. C'est aussi une sorte de métaphore. Elle travaille dans la pâte et c'est de temps en temps même violent. On doit faire des forces pour eux. Cela se présente très naturel. Oui. Et en parlant de la psychologie, oui, naturellement, elle est en deuil. Elle. Mais pour moi, en l'écrivant, c'est surtout, elle est entourée d'un mystère parce que c'est déjà il y a 12 ans que ce drame a été le cas et elle est habituée qu'il y a ce mystère. Moi, je pense, ça lui donne une sorte de consolation d'être ensemble avec ce mystère. Et les prétentions ne vont pas plus loin.
Alors, ce qui est très intéressant, Marguerite de Mour, justement, c'est que votre personnage de femme, on ne s'attarde pas sur est-ce qu'elle est triste, est-ce qu'elle est gay, est-ce qu'elle...
Exactement.
Elle fait des choses au rythme de ses pensées, puisqu'elle saute d'une idée à l'autre, souvent. Elle passe d'un homme à l'autre, d'aujourd'hui au passé. Et c'est à ce rythme-là qu'on va comprendre quelles sont les émotions qui l'habitent. On va écouter justement la lecture d'une page de votre livre. Elle est dans la cuisine, elle pétrit la pâte et au milieu, les pensées surviennent.
Pour faire cette pâte, tu dois être très calme. Le mieux est de sortir tous les ingrédients à l'avance. La farine, le sel, le sucre. Je prends le grand bol. Je délaye la levure dans du lait. Tu dois d'abord mélanger pendant 5 minutes et puis seulement ajouter les œufs. À partir de cet instant, tu dois faire attention. La levure et les œufs sont des composants extrêmement réactifs. Ils vont faire lever la pâte, ils vont rejeter du gaz, ils vont faire doubler le volume d'origine, ce qui continue de me surprendre à chaque fois. De mes doigts fermes, j'entame le pétrissage. Ça n'a pas de sens, évidemment, de dire que je ne me souviens pas de Ton. N'importe quelle femme se souvient de son mari. Des choses se sont passées. Ce devaient être des choses agréables, faciles aussi. Si faciles qu'elles allaient de soi et n'ont pas laissé d'impression. Le dimanche, nous avions pour habitude de prendre le petit déjeuner sous les poiriers. Nous étions assis sur des chaises anciennes. Pour garder les œufs bien chauds, Ton les servait dans un gant de cuisine. Combien de fois l'avons-nous fait? Tout un été? Un mois, quelquefois? J'avais disposé une couronne de capucine autour de son assiette. La fleur est comestible. Dans les calices, j'avais versé quelques gouttes de miel. Pourquoi? Par amour? Sentimentalisme? Parce que mes cheveux ce matin-là ondulaient joliment? J'enfonce la base de ma main dans la pâte. Elle s'effrite encore. D'un geste tranquille, je la replie. Je travaille en silence. Il serait impensable de brusquer l'intense paix de la nuit en allumant le robot ménager. L'appareil dort, gras et poussiéreux, à côté de la cuisinière. Je pourrais tout aussi bien le jeter. Son vacarme exaspérant est d'ailleurs superflu. Mes doigts font le travail au moins aussi bien que les crochets du batteur électrique. Tu dois juste veiller à ce que ta main ne devienne pas trop chaude. Sinon, le bazar se met à coller. Il s'appelait Ton. Ton. Son nom ne me disait rien. Il lui allait, c'est tout. Allait avec sa démarche, sa voix, avec le pull bleu qu'il posait sur mes épaules quand on faisait de la voile. Quand je repense à la facilité avec laquelle il avait manœuvré le bateau, malgré la tempête, pour l'arrêter pile à 10 cm du débarcadère. Je m'étais mordu les lèvres. Pendant une heure, j'avais eu le goût du sang dans la bouche. J'ouvre le robinet et rince mes mains à l'eau froide. Puis je saupoudre le plan de travail de farine. C'est un ancien plan de travail en granit. Ton et moi ne voyons pas l'intérêt de remplacer cette pierre par du métal, alors qu'elle était encore intacte. J'en éprouve tout le plaisir aujourd'hui. C'est un fait que la fraîcheur emmagasinée par la nature ne disparaît jamais totalement. À présent, je dois user de beaucoup de force. J'écarte les pieds et prends une large inspiration. Au cœur de la nuit, je commence à battre et à martyriser la docile boule de pâte blanche au niveau de mon ventre. C'est à faire peur. Heureusement que personne ne me voit. Est-ce qu'on ne se croirait pas en plein cauchemar, dans l'une de ces scènes d'horreur muette où tu te fais dominer par une chose molle et gluante? Bien sûr que je me souviens de mon mari, si je commence par le début. Alors il devient une image que je peux visualiser n'importe quand.
Marguerite Demour, vous rentrez là, tout de suite, de Montpellier, où vous étiez à la 33e comédie du livre, qui recevait cette année les lettres néerlandaises. Et justement, il y avait parmi les écrivains invités, Anna Enquist, votre compatriote. Selon elle, les trois piliers de la littérature néerlandaise, c'est la brièveté, la modestie et le sens du détail. Et en fait, en écoutant la lecture de cette partie de votre livre, on se rend compte qu'effectivement, c'est assez bien défini. Vous êtes d'accord avec elle?
Oui, je suis bien d'accord. Vous savez, je pense, il y a très peu d'écrivains qui analysent leur propre style. Au moins, moi, je ne le fais pas. Pour moi, c'est la manière pour ce nouvelle, naturellement. Dans ce petit roman, il y a cette voix. N'oublierons pas que c'est un monologue. Alors, nécessairement, ce n'est pas vraiment de grande intensité théorique. C'est une voix d'une femme dans la nuit comme elle parle à elle-même. Alors, la simplicité de ça est aussi, sans le moindre théorie, ça c'est naturel pour cette femme et pour cette situation. La nuit est différente que la journée.
Et alors, c'est une histoire cruelle que vous racontez, puisque cette jeune femme, elle était très jeune à l'époque, lorsqu'elle a perdu son mari, elle venait de l'épouser, leur mariage a duré 14 mois. Cet homme s'est suicidé, n'a pas laissé de lettres. Donc, elle se retrouve en état de sidération devant un mystère. Et puis, en même temps, elle décide de rester dans la même maison, de continuer à faire ce qu'elle faisait, elle est institutrice, de continuer sa vie. Autour d'elle, il y a un certain étonnement. Elle n'a pas l'air dévastée. Et au fond, on se rend compte, sans que vous le disiez avec des adjectifs ni avec des grandes phrases, qu'en fait, cette femme, elle n'est pas détruite
pas du tout
par cette mort. Elle,
non.
elle a envie de comprendre, mais surtout, elle est habitée par une étonnante force de vie.
Oui, mais je pense c'est elle. Elle a été toujours comme ça. Elle n'est pas un personnage qui connaît des dépressions. Elle a été toujours, je pense, hein, comme enfant déjà, je ne l'ai pas connue comme enfant, mais je pense toujours de bon courage, de bonne humeur. Et cette drame, je pense peut-être surtout parce que c'était complètement incroyable, pas à comprendre. Peut-être pour ça, elle peut laisser cela à part d'elle. Et quand même, elle essaye souvent d'entrer dans le mystère. Comprendre peut-être, mais le mot est trop rationnel. Elle veut peut-être être avec lui.
Mais d'ailleurs, dans vos autres livres aussi, Marguerite de Mour, il y a cette idée qui revient sans arrêt, simplement en racontant des vies, comme vous le faites, qu'il faut accepter d'aimer les gens aussi pour ce qu'on ne comprend pas d'eux, pour ce qu'on ne sait pas d'eux. Parce que de toute façon, parfois, ce sont les gens les plus proches de nous qui nous demeureront toujours les plus mystérieux.
Oui, oui. Parce qu'ils sont simplement là. Peut-être on vit avec eux. Ce mot de comprendre, ça, c'est quelque chose de toute la vie. Essayer de comprendre la vie, je trouve ça bien quelque chose. Hein. Ce qu'on doit faire, c'est vivre la vie et vivre avec les circonstances de la vie. Et ça, c'est une chose très concrète et en même temps naturellement très, très profonde. Mais comprendre, théorétiser sur ce qui... Je pense qu'il y a très, très peu de gens qui font cela en réalité.
Alors, il y a aussi quelque chose de très étonnant, peut-être pour les Français, c'est que vous décrivez avec une simplicité absolue, comme quelque chose de tout à fait évident, il n'y a pas la moindre question qui se pose, que cette jeune femme qui est jeune, qui est belle, qui est pleine de vie, elle se retrouve soudain très seule, et sa belle-sœur, la sœur de son mari, qui vient de se tuer, lui dit « mais enfin, tu ne vas pas rester comme ça, il faut que tu trouves des hommes ». Et donc, elles vont rédiger toutes les deux une petite annonce qui va passer dans un journal, et cette jeune veuve va, pendant plus de 10 ans, rencontrer des hommes pour une journée, une nuit.
Oui.
Et puis c'est comme ça, c'est-à-dire que ça arrive aussi simplement que quelqu'un qui est en train de pétrir une pâte pour faire une quiche, bien, elle rencontre des hommes et...
Oui, ça marche bien. Moi, je pense, ce n'est pas sans signification, que c'est la sœur de Ton. Les deux étaient très, très intimes ensemble. Ils se sont aimés beaucoup. Que Lucia, la sœur de Ton, vu que l'épouse, hein, sa belle-sœur, était complètement triste, mais aussi surtout physiquement. Elle était en mauvais état physiquement. Et alors, Lucia a dit simplement, mais tu fais mal à ton corps. On doit faire quelque chose. Alors, on fait rédiger ensemble, ce petit annonce de 4 mots seulement. Moi, j'ai bien une idée de ce que c'était, ces 4 mots. Et après, oui, alors elles ont inventé un système et ce système marchait bien, c'est-à-dire recevoir régulièrement un homme par cette annonce et seulement pour un jour et une nuit. Et ça marchait bientôt très très bien. Elle se sentait mieux, elle était belle de nouveau. Et aussi, dans la nuit de ce petit roman, ça c'est le cas, pendant qu'elle est dans la cuisine, préparer un kouglof, je pense, en eau, dans la chambre, dort un homme qu'elle a rencontré aujourd'hui.
Le matin même. Et justement, on va écouter ce qui se passe.
Nous avons commencé par chercher nos cigarettes. Son bras a disparu au fond de l'une de ses poches marron. Il en a ressorti un briquet et un paquet. J'ai opté pour les siennes. Il m'a tendu son feu. C'est toujours ça que je regarde chez les hommes. La manière dont le poignet découvert dépasse de la manche du veston, ou mieux encore, du par-dessus. Ce contraste en apparence insignifiant entre le vêtement et le corps, il faut s'y arrêter bien sûr, y être sensible aussi. Mais moi j'ose affirmer que la rotation paisible d'un poignet couvert de poils roux où le prolongement d'un bras maigre en une main nerveuse parle un langage clair, moins trompeur que les mouvements d'une bouche, que la ligne du corps dans l'ensemble. Ton aimait bien m'aider à la cuisine. Nous cuisinions de façon impulsive et rapide. Des macaronis, du poulet aux haricots, un délice à chaque fois. mais je n'arrive plus à me souvenir du mouvement que faisait son poignet pour ouvrir une boîte de conserve. Il m'observait avec une curiosité sincère. « Tu es donc institutrice dans une école de village », a-t-il dit, évoquant ma lettre, puisqu'il fallait bien dire quelque chose. Je le regardais franchement, et avec ardeur aussi. Dans la mesure du possible, par le passé, je répondais toujours aux questions lors des examens. Et même si je maîtrisais mal la matière, je tapais souvent dans le mille. Cet empressement me poursuit. J'aime donner des renseignements. Peu m'importe d'être arrêtée à un contrôle de la route, dans un grand magasin ou un train. Que voulez-vous savoir ? Je n'ai pas de secret. Les événements de ma vie sont pour ma part publics. Il m'a demandé si j'étais seule depuis longtemps. Et j'ai dit que oui, depuis 13 ans et demi. Ton mariage n'a pas duré longtemps alors ? Ben, plus de 14 mois tout de même, de juillet 1970 au mois de septembre de l'année suivante. Ensuite, j'ai dû lui expliquer, et ça j'en avais l'habitude, que je n'étais pas divorcée, mais veuve. Tandis qu'il écoutait sans témoigner d'attention excessive, je dévoilais le drame qui s'était déroulé un soir d'été indien. Vers 8 heures, m'avait-on assuré plus tard, mon mari, âgé de 25 ans, vêtu d'une paire de jeans, de chaussures en lin et d'un t-shirt bleu, tout à fait normalement donc, avait dans la grande serre vouée à ses projets d'horticulture expérimentale, il y cultivait des endives sur des étagères empilées. Il mit fin à ses jours avec un Luger 9 mm, en se tirant une balle dans la tête. Comme toute cette semaine de septembre, ce jour-là aussi avait été doux, sans un souffle de vent. Au village, les préparatifs de la grande foire aux bestiaux annuels allaient bon train. Ils réagissent tous différemment, mais ils sont rarement surpris ou choqués. C'est parce que je suis une inconnue, je pense. Les choses qui arrivent aux inconnus n'ont qu'un degré de réalité limité, moindre que les rêves, moindre que les histoires, moindre que le contenu d'un film raconté de manière décousue.
Marguerite de Mour, on sent bien à travers ce récit que cette femme recommence éternellement à chaque nouvelle rencontre, qu'au fond, elle juge aussi l'homme qu'elle a en face d'elle à la façon dont il pose des questions ou pas, la façon dont il se montre surpris, même un peu inquiet. Et on sent que avec ce dernier homme-là, celui-là qui dort en haut pendant qu'elle fait ses gâteaux dans la cuisine en bas, que quelque chose a bougé dans sa vie. On le sent, elle ne le sait peut-être pas encore, mais le lecteur, lui, sait déjà que quelque chose a changé.
Oui, plutôt le lecteur. Et, à vrai dire, elle ne juge pas du tout. Hein. Mais c'était aussi déjà dans ce fragment qui est lu maintenant, il s'agit aussi de raconter ce qui s'est passé à un étranger. Je pense que c'est souvent plus facile que d'en parler avec ceux qui sont intimement ensemble avec elle. Alors dans cette manière, elle peut simplement raconter les faits, très sec. Si elle a déjà pensé que cet homme d'aujourd'hui est sympathique, je n'en suis pas sûre. Moi, comme écrivain, je dois dire, je le trouve assez sympathique. Mais je suis sérieuse, hein, je pense, elle est dans cette nuit. Elle n'est pas en train de se réaliser, est-ce qu'il était sérieux ou sympathique ou quoi. Elle n'a rien contre qu'il est là, mais ça c'était toujours le cas, hein. Moi, je pense, dans le roman, on voit aussi leur promenade dans le zoo et dans la neige. C'est l'hiver, c'est un décor vraiment bien, naturellement, pour ça, c'est froid. Alors, il y a une chaleur entre eux. Et j'ai de bonnes expériences, de bon espoir pour elles. Oui, ça c'est tout, oui. Oui.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover.
to slip out the back deck. Make new plans then, don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
Marguerite de Mour, je vous entends depuis tout à l'heure parler de cette femme, de l'homme qu'elle a rencontré et qui dort dans son lit cette fameuse nuit-là. Et j'ai l'impression que, en fait, vous en parlez comme une lectrice, pas plus au courant que nous des mystères de la vie de ces personnages. Comme si vous aviez abandonné définitivement cette position qu'ont généralement les écrivains, qui est une position surplombante. Eux, ils savent d'où viennent leurs personnages, qui ils sont et où ils iront, et quelles sont les choses qu'ils ne disent pas. Et vous, vous avez comme ça des avis, comme peut l'avoir une lectrice comme nous.
Oui,
c'est
oui,
très
c'est
étrange.
Très vrai. Oui, mais naturellement, pendant que j'étais en train d'écrire le roman, c'était moi qui... Mais décidé, mais c'est vrai ce que vous dites. La chose se présentait et j'ai fait ce récit. Mais maintenant, du moment que le roman est prêt, moi je trouve vraiment, avec tous mes livres, au fond, il ne m'appartient plus, il appartient au lecteur.
Alors cette jeune femme qui cuisine et que l'on suit tout au long de votre roman, Marguerite de Mour, elle a eu des périodes où elle n'était pas très fière de ce qu'elle faisait, mais elle a essayé de fouiller dans le passé de son mari, dans les rares papiers, lettres, photos qu'elle a pu retrouver. Elle a essayé de comprendre et elle n'a rien trouvé.
J'avais rassemblé et étalé mes trouvailles dans le salon. Le contenu des tiroirs se trouvait sur le bureau. Sur la grande table, l'un des rares meubles de ses parents que Ton avait voulu garder après notre mariage, il y avait les entrées de cinéma, les tickets de caisse, les pièces bouton-ficelle et le petit agenda de poche. Tous les objets que j'avais exhumés en fouillant ses habits et quelques sacs. Sur le sol, il y avait une boîte en carton avec des photos de famille et des papiers. Ce n'était qu'une modeste collection, car Ton avait tout trié à la mort de son père. J'étais souvent seule à cette époque. La compagnie des autres m'épuisait. Parler, me tenir, choisir mes vêtements, me maquiller, je n'avais plus envie. Je ne me sentais à l'aise que dans ma classe. La course du soleil sur mon bureau et sur mes mains. Les enfants qui rêvassent, un petit qui dort quelquefois. En mai, je décidai de ranger la maison. C'était au cours de la deuxième année. À l'époque où je commençais à me demander s'il était bien légitime, après la mort d'un homme, de s'approprier ce bout de jardin. Qui par nonchalance ou intentionnellement était resté secret. Après tout, je n'avais été sa femme que pendant un an et demi. Je m'en prenais aussi à ma mémoire. J'avais beau fermer les yeux très fort, elle ne reproduisait quasiment rien. Rien de cette intimité qui devait pourtant bien avoir existé, me semblait-il. Lorsque tu vis en couple marié pendant un an et demi, ou pas. J'avais éliminé ses vêtements, rangé les photos et les papiers au grenier, fermé la serre aux endives. Et mes pensées ne se laissaient pas déjouer. Au moment les plus aléatoires, elles se mettaient à travailler, opiniâtres, telles des fourmis qui transportent avec un zèle monstrueux un bout de guêpe ou une brindille vers leur antre secret. En ce mois de mes frisqués, j'entrepris de retourner les chaises sur la table. Je poussai le lit et les armoires sur le côté, aspirai et passai les sols à la serpillière. Je nettoyai les chambranles de porte à la poudre à récurer, les petites vitres à l'alcool à brûler, et verser un seau d'eau savonneuse sur les carreaux de l'entrée. Quiconque m'aurait vu à l'ouvrage aurait sûrement pensé que j'étais en train d'effacer les dernières empreintes de doigts et les dernières traces de pas de mon mari. C'était le contraire. Celui qui range tombe toujours sur quelque chose. En éloignant la table du mur, je fis tomber les livres de cuisine par terre et un feuillet d'agenda couvert de mon écriture s'échappa d'entre les pages. Je le ramassai et m'assis. Le 12 juin 1971... J'écrivais à mon mari que je ne pouvais malheureusement pas patienter jusqu'à son retour de la vente aux enchères. Ma mère m'attendait pour le dîner, et je devais certainement compter 3 heures de route. Il ne devait pas oublier de donner leurs médicaments au lapin. Je serais rentrée le lendemain avant la tombée de la nuit. « Je t'aime », lui écrivais-je ensuite, signé de mon prénom, avec une majuscule enluminée. Il n'y avait pas de doute. J'avais aimé mon mari. Tu le vois bien ? C'est écrit là quand même. De mon écriture, signée et datée. Je poussais un profond soupir. Je faisais partie des morceaux.
Marguerite de Mour, c'est terrible, ce tout petit détail. Il faut que cette femme retrouve un papier qu'elle a écrit un jour, qui n'a pas beaucoup d'importance, et qui pour elle devient, au fond, la seule trace de l'évidence de cet amour. Elle l'a aimé quand même. Et oui. Là, oui. Puisqu'elle l'a signé, c'est que c'est vrai. Oui. C'est très déchirant et en même temps, vous ne vous attardez jamais là-dessus.
Oui, c'est de nouveau assez poétique. Ça peut se passer. C'est de nouveau très léger. Et oui, je n'ai pas dû réfléchir à cette sorte de choses. Hein. Je me souviens à ma table d'écrire que ça se déroulait très harmonieusement. Et aussi, je peux imaginer que ça passe comme ça. Hein. On range et on trouve une tout petite preuve. Ah mais oui, j'ai aimé mon mari. Et elle était contente de ça. C'était pas une énorme joie, pas du tout. Hein. Ça, c'est pas l'atmosphère, mais un peu ok, mais oui, bien sûr. Je l'ai vraiment parce que c'est écrit noir sur blanc. Je l'ai aimé. Et moi, j'aime cela. Je suis même ce moment attendrie par ça, oui, oui.
Et puis, vous le disiez tout à l'heure, ils habitent dans le nord du pays et c'est une nuit d'hiver. Il fait froid. D'ailleurs, il y a beaucoup de pages de ses souvenirs qui se déroulent avec son jeune mari. Ils font du patin à glace sur une rivière gelée. Je me demandais si, au fond, les paysages hivernaux, comme ça, comme dans les tableaux de Bruegel, hein, est-ce que, au fond, ça modèle des personnages qui sont finalement assez différents des personnages des romans français, beaucoup plus extravertis? Est-ce que le fait de vivre comme ça, à proximité de la mer, avec du vent, de la neige, et avoir des maisons qui se referment un peu comme des cocons autour des personnages, ça dit quelque chose de leur caractère?
Oui, c'est très, très hollandais, très néerlandais, naturellement. Un autre roman de moi, plus tard, est beaucoup plus épais. Il s'agit de cette catastrophe de l'eau. Chez nous, il y avait des milliers de personnes qui étaient mortes là. Alors, la menace de l'eau est toujours présente chez nous. Et on vit simplement avec ça et avec les saisons et avec, oui, bien sûr, le landschap, le paysage, oui, le landschap d'agriculture et d'évrage, etc. À vrai dire, je ne me rends pas compte de cela. Mes romans sont très différents. Mon roman le plus récent, juste apparu en Allemagne, est un roman plein de violence. Hein. Oui, meurtre et vrac, what is that?
La vengeance.
Vengeance, et c'est très très violent ce roman.
Ah oui, à l'inverse de celui-ci, oui. Au premier regard, qui est un roman court, bref, mais très très prenant et très poétique aussi, Marguerite de Mauw. Voilà, ça vient de paraître aux éditions Grasset, et c'est dans une traduction de Françoise Antoine, et je vous remercie d'être venue me voir aujourd'hui.
C'était mon plaisir.
Et merci beaucoup à Marianne de Susbiel. Merci à vous toutes les deux, au revoir. Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais également de cette saison, puisque à partir de samedi prochain, vous aurez la grille d'été de France Inter. Mais si vous le voulez bien, et j'espère que vous le voudrez bien, nous nous retrouverons le premier samedi de septembre, qui sera d'ailleurs le premier. Et bien sûr, très bonne soirée à l'écoute de France Inter, très bon été à l'écoute de France Inter, et à très bientôt.